Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Merci pour votre confiance renouvelée à nos programmes, mesdames, messieurs. Bonsoir. Au Club de Tamani, ce soir, nous braquons nos projecteurs sur une pratique très ancienne et mystérieuse à la fois, que ce soit les courriers, le sable ou l'interprétation des rêves. Ces pratiques ancestrales continuent d'influencer le quotidien de bon nombre de personnes au Mali, même en plein 21e siècle. Mais quel poids ces pratiques ont réellement sur notre existence? S'agit-il de simples superstitions ou d'une véritable science sociale et spirituelle? Pour en parler, nous recevons Dr Fode Moussa Sidibé. Il est homme de culture et gardien de nos traditions. Ensemble, nous allons essayer de comprendre comment le passé dialogue avec le futur sous nos cieux. Nos rubriques habituelles vous seront gracieusement servies, tout comme une playlist de feu pendant les 30 prochaines minutes. À la présentation, je suis Lala Diaratoué, avec moi la belle Adama Amadou Haïdara. Gagné Kanté pour la technique. Merci de nous suivre. Bonsoir Adama.
Bonsoir Lala.
Comment vas-tu?
Moi ça va bien, et toi?
Bon, à la malienne, parce que sous mes grands donnes, quoi.
Ok, courage,
n'est-ce pas? Et surtout que le week-end, je prévois de beaucoup dormir.
N'est-ce pas?
Et toi?
Oui, c'est ça.
N'est-ce pas?
Avec une semaine bien chargée.
Ouais. Week-end repos. D'accord. On va commencer, comme à l'accoutumée, avec de la musique. Et pour cette première sélection, nous allons écouter Nahawa Dumbia et elle chante Ntana. C'était l'Antana signé Nahawa Dumbia, un clin d'œil, on l'a dit, au Dozo. Nous partons dans les kiosques à journaux.
La revue de la presse.
Alors, Moussa Malé Sissoko, bonsoir.
Bonsoir Adama, bonsoir Lala Diara Touré.
Comment vas-tu Moussa Malé?
Je tiens bon. N'est-ce à pas? Travers vous, je souhaite une bonne fête de 8 mars, mm-hmm. par anticipation,
oui.
à toutes les dames du monde, particulièrement celles du Mali.
Merci beaucoup,
Moussa Malé Sissoko.
Alors, à la une des journaux cette semaine, polémique sur un présumé détournement de 1,7 milliard de francs CFA dans la réhabilitation du tronçon urbain Bamako-Koulikoro sur 9 kilomètres.
Effectivement, Lala Diara Touré, les travaux d'aménagement et de l'élargissement de la route nationale RN27 se poursuivent. Lancé le 16 juillet 2024, cet aménagement d'un coût global de plus de 29 milliards de francs CFA est financé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement. Le site Mali 24 annonce la reprise du chantier d'aménagement du tronçon urbain après une longue période d'arrêt. Des déclarations partagées sur les réseaux sociaux et dans certains journaux font état d'un détournement présumé d'1,7 milliard de francs CFA impliquant 15 cadres du département des transports. La ministre des transports, Madina Sissoko, dément tout détournement de fonds. Titre le quotidien d'information L'Essor. Selon le journal, la ministre a mis à profit une visite de terrain sur le chantier de la RN27 pour apporter des éclaircissements sur des allégations relayées sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes de l'Indépendant, Madame Dambélé Madina estime qu'il n'y a aucun problème de décaissement. Les comptes validés ont été transmis. Le paiement suit son cours normal entre payeurs et les entreprises, a déclaré la ministre des Transports dans l'Indépendant. Aucune mission d'audit n'a été menée depuis le début en 2024. Le montant évoqué dans ce rapport du bureau du vérificateur général remonte à l'an 2023 avant le démarrage du chantier, selon le site Djoliba FM. Elle précise que les irrégularités révélées dans ce rapport par le bureau du vérificateur général auprès de de l'autorité routière font suite à une vérification des exercices 2017, 2018, 2020 et 2021, a écrit le site Djoliba FM. La panique commente Infomatin. Selon ce quotidien privé, la ministre Madame Dembélé Madina Sissoko face à la tourmente du chantier RN27. Pour ce journal, à l'ère des réseaux sociaux, la frontière entre la vigilance citoyenne et l'emballement numérique devient chaque jour plus ténue. En voulant opposer des faits à des allégations virales, la ministre a paradoxalement donné le sentiment d'un empressement défensif, souligne Infomatin et le quotidien privé, de poursuivre qu'entre obligation d'éclairer et tentation de répondre à tout, la posture de Madame la ministre des Transports interroge. Faut-il donc descendre dans l'arène médiatique à la moindre rumeur? Lala Diarra Touré, c'est ce qui referme cette page dédiée à la revue de la presse.
Merci beaucoup, Moussa Malé Sissoko. Nous te retrouverons au cours de cette émission pour la version en langue nationale Bamalankan. Mais en attendant, rendons-nous dans les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Alors, bonsoir Fatih Attara qui vient de nous rejoindre dans ce studio.
Merci, bonsoir Adama.
Fatih, comment vas-tu?
Oui, je vais bien Lala.
Apparemment, toi, tu tiens bien le ramadan. Hein?
Oui, un peu.
Il ne te malmène pas, c'est toi qui le malmène.
Et ramadan, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un.
Alors Fatih, de quoi allons-nous parler ce soir?
Nous allons parler de la loi sur les délits de presse. Cette loi garantit la liberté de publication tout en sanctionnant pénalement les atteintes à l'honneur ou à l'ordre public. La dépénalisation de cette disposition juridique constitue l'une des réformes majeures en discussion au Mali depuis quelques années. Cela vise à supprimer l'emprisonnement des journalistes pour des faits liés à l'exercice de leur métier. Nous sommes allés à la rencontre d'Alexis Calambri, directeur de publication du journal Mali Tribune. Nous l'avons interrogé sur l'évolution de la relecture de la loi en question. Voici notre entretien.
La loi portant régime de presse et délit de presse en République du Mali a vraiment fait beaucoup de tours. Donc, si l'on se fie à ce que le président a dit lors des présentations de vœux à l'occasion du nouvel an, la loi doit se retrouver certainement au niveau d'une commission qui l'a mise en place pour la relecture. Donc, au dire même du président, il y a une commission au niveau de la présidence de la République pour relire les textes. Parce que il y a eu un long processus où la presse a fait des propositions. C'est parti au CNT et puis les fêtières également s'étaient prononcées. On espère que cette fois-ci, au niveau du président de la République, ça ne va pas trop tarder avant de revenir au CNT. Et qu'on sache quelle est la dernière mouture retenue.
En quoi est-ce que la révision de la loi régime de la presse et délit de presse est-elle bénéfique pour les médias?
Forcément, la révision serait bénéfique parce que si vous regardez la date de la loi actuelle, elle ne prend pas en compte la presse numérique, elle ne prend pas en compte les réseaux sociaux, elle ne prend pas en compte les producteurs de contenu et tout le reste.
Alors, est-ce que la loi actuelle n'a pas de limites, Monsieur Calambri?
Donc oui, la loi actuelle a beaucoup de limites et de restrictions. Maintenant, l'inquiétude est quelle mouture sera retenue, parce que nous avons au niveau des fêtières réfléchi et proposé. Le tout est de savoir si ces propositions seront retenues et seront prises en compte. En ce moment, on peut s'inquiéter si ce n'est pas le cas.
Merci Fatih Attara et bon week-end à toi.
Merci à vous, charmante dame.
Il est temps d'accueillir l'invité culture.
L'invité culture.
Croyances africaines et arts divinatoires, nous en parlons ce soir au club de Tamani.
Oui, évidemment, ces pratiques vieilles de plusieurs siècles qui impactent notre existence. Et nous avons l'honneur de compter parmi nous ce soir Dr Fode Moussa Sidibé. Il est gardien de la tradition et homme de culture. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, docteur.
Bonsoir.
Alors, on va directement entamer avec les questions. Et la première, la voici. Comment définirez-vous les arts divinatoires en Afrique pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, docteur?
Merci, merci. Bonsoir à vos auditeurs, bonsoir à tout le studio Tamani. Je pense que les arts divinatoires Vous l'avez dit, existe depuis la nuit des temps. Et l'homme a toujours eu besoin de connaître le passé, le présent et même le futur. Et ce qui est à l'origine de la mise en place de tout cet art-là qui permet, depuis des siècles, depuis des millénaires, si j'ose me parler ainsi, de connaître ce qui est inconnu, ce qui est caché, c'est-à-dire le mystère de la vie, le mystère de l'évolution du temps, le temps qui se succède, c'est un gros mystère et l'homme a eu toujours besoin d'avoir son mot à dire par rapport à ce déroulement-là.
Alors, ceci est bien noté, mais pourquoi, selon vous, les gens continuent-ils de consulter les divins, malgré la modernisation? On sait que notre société a connu beaucoup de mutations. Mmh. Est-ce que, également, cette pratique va de pair avec les religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui?
Bon, la question est très, très importante. Actuellement, il ne faut pas croire que ce que nous appelons évolution a détruit l'essence de l'être humain. L'évolution n'a pas détruit l'essence. L'être humain, qu'il soit noir, blanc, jaune, tout ce que vous voulez, a toujours ses interrogations existentielles en lui. Et ce sont ces interrogations existentielles qui l'amènent à se poser des questions et à vouloir découvrir ce mystère-là, le mystère de la vie, le mystère du temps qui passe et du temps qui vient. Donc ça, c'est existentiel chez tous les hommes. Les hommes les plus cartésiens cherchent à connaître, à percer ce mystère à travers des pratiques qu'on peut dire expérimentales, c'est-à-dire à travers la science. Ils cherchent à percer le mystère. Ce qui va arriver demain, c'est vrai qu'eux, ils se basent sur certaines expériences qui leur permettent de dire que telle chose peut survenir à tel moment, en tel lieu, etc. Mais pour ce qui est du commun des êtres humains qui n'ont pas accès à ces pratiques scientifiques, on part avec la vision spirituelle de la chose. Et l'homme étant, si je peux m'exprimer ainsi, un animal fondamentalement spirituel, donc la question reste là, qu'on soit grand évolué ou qu'on nous compare à nos aïeux, nous avons les mêmes problématiques et nous avons les mêmes questionnements par rapport à la spiritualité. Et ceci dit, les religions révélées ont trouvé l'Afrique avec ses réalités, avec ses visions, avec ses compréhensions. Et puisque les gens sont devenus ou musulmans ou chrétiens, ils ont cherché à ramener dans ces religions-là ce qu'ils avaient de fondamental, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les chants, que ce soit tout ce qu'ils pensaient être bien pour eux, malgré leur conversion aux religions monothéistes, ils ont amené ces connaissances dedans. Ce qui fait la différence entre notre religion, notre vision de la religion, avec la vision de ceux qui nous ont amené cette religion. Donc les gens restent dans leur art divinatoire, qu'ils ont même amené dans le Coran. Et il ne faut pas l'oublier, chez nous ici au Mali, on parle de plusieurs types de religieux, de leaders religieux. Certains qu'on appelle les marabouts, n'est-ce pas, s'adonnent à ces pratiques-là, mais en se fondant sur le Coran lui-même. Absolument. Ou en se fondant sur des textes qui sont liés au Coran quand même.
Et oui, docteur, on voit souvent l'utilisation de coris, de noix de cola ou de tracés dans le sable. Est-ce que chaque outil a une signification particulière?
Exactement. Chaque objet que l'on utilise pour faire de la divination a sa particularité, a ses interdits, a ses permissions, et ce qui fait qu'on ne peut pas les confondre. Mais très souvent, selon toute vraisemblance, toutes ces connaissances divinatoires-là viennent d'une même source. Et la vraie source serait, surtout le continent africain, serait ce que nous appelons Troabou, Tienda, Bugrida ou Djabo. Toutes ces connaissances-là viennent de là, qui est la géomancie. La géomancie que l'on trace sur terre ou qu'on trace sur une feuille répond à la même pratique. Et ça, c'est une pratique fondamentalement africaine, hein, n'est-ce pas? La géomancie est fondamentalement africaine. Elle a été prise par d'autres peuples, n'est-ce pas? Et nous savons comment la géomancie est arrivée en Europe, nous le savons, au XIe siècle. Donc, nous savons que c'est un ensemble de codes binaires. La géomancie est un code binaire. Et c'est ce code binaire qui, transplanté d'Afrique à l'Europe, à l'Espagne d'abord, ensuite aux Pays-Bas et après en Allemagne, qui a donné naissance à tout ce qu'on a comme objets qui nous étonnent aujourd'hui, à savoir l'ordinateur, le téléphone, les trucs sur les avions et tout ça vient de la géomancie, wow, du code binaire. C'est ce que nous connaissons le moins. Donc ces connaissances-là sont des connaissances dont l'origine est fondamentalement africaine. Donc, si cette géomancie a pu donner naissance à tout ce qu'on a comme élément lié au fractal, c'est-à-dire la répétition du même motif, et qui a donné naissance à toute cette connaissance que nous avons aujourd'hui, la télévision, tout ce qui est numérique, vient du code binaire.
Est-ce qu'on est avec ce don, professeur, de voir l'invisible, ou est-ce que cela s'apprend avec le temps?
Bon, très belle question. Il y a les deux possibilités. Chaque individu vient avec des possibilités qui sont innées en nous, et il y a des possibilités qui sont liées à l'apprentissage. Et on peut devenir géomancien en apprenant la géomancie. Mais il faut avoir quand même quelques aptitudes. Oui. Il faut pouvoir retenir. Il faut avoir une bonne mémoire pour retenir. Une très, très bonne mémoire. N'importe qui ne peut pas devenir géomancien. Parce que quand on n'a pas une bonne mémoire, ça va poser des problèmes. Donc, il y a les cas où les enfants, les surdoués, par exemple, que nous avons eu dans notre société, ce sont eux les vrais qui deviennent de vrais initiés dans le cadre de la géomancie, parce qu'ils sont surdoués.
D'accord, merci beaucoup, Dr Fode Moussa Sidibé, pour ces éclairages. Et nous allons marquer une petite pause musicale, là. Et cette fois, nous allons écouter Makuyate numéro 2, elle chante Djatigi.
Chanté ici par Feu Makuyate numéro 2, elle est décédée le 7 novembre 2022 à l'âge de 46 ans. Que son âme repose en paix, Adamant. Et nous poursuivons notre série de questions-réponses avec l'invité.
On juge souvent, docteur, à tort les pratiques divinatoires d'aucuns diront qu'elles ne servent que pour faire le mal. Êtes-vous d'accord avec ça?
Non, pas du tout. Pas du tout, pour la simple raison que tous les devins, tous ceux qui font de la divination savent que le monde est bipolaire. C'est-à-dire, il y a le bien, il y a le mal, il y a le jour, il y a la nuit, il y a la vie, il y a la mort. Donc, tout ce qui a été fait et mis en œuvre a les deux aspects. Donc, il y a le bien, c'est vrai. Chez certains, la malfaisance peut prendre le dessus sur la bienfaisance, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont incapables de faire du bien.
Mais on comprend à travers même les discours de ces mêmes devins-là. Je peux voir ce qui t'est destiné, ce que tu auras, mais je ne peux même pas voir ce qui m'est destiné moi-même.
C'est la manière dont l'initiation est faite. Tous les savoirs profonds que nous avons sur notre Afrique, tous ces savoirs profonds s'acquièrent à partir de l'initiation. Et les règles de l'initiation sont très, très, très strictes. Quelqu'un qui apprend la géomancie à la source, il lui est presque interdit de chercher à savoir pour lui-même. Si cette interdiction n'existait pas, est-ce qu'il va chercher pour quelqu'un d'autre? Il va passer sa vie à ça.
Oui,
donc, clair. À partir de ce moment-là, les règles sont là pour encadrer et ils respectent ces règles-là pour leur bien personnel et pour le bien de la société.
Ah, d'accord.
Voilà. Nangi kalantan fea. Irelibita nkalanina. Voilà.
Cela nous conduit à la prochaine question. Aujourd'hui, force également de constater que beaucoup se déclarent devins et s'hasardent même à faire des prédications. Ils sont hélas rattrapés par la réalité. Comment pouvons-nous faire la différence entre ceux-ci et les vrais détenteurs de cette science?
La seule solution que nous avons, c'est de chercher à connaître qui est le maître de ce devin-là. Si moi, je me programme tout de suite devin, bon, je vous dis, je suis fort en divination. Cherchez à savoir qui est mon maître. Demandez-le-moi. Si je vous dis que, par exemple, dans notre milieu de Donso, si je dis que mon maître est Kalasa Bagui, pour beaucoup, ça veut tout dire déjà. Si vous vérifiez et que, effectivement, j'ai appris chez Kalasa Bagui, en ce moment-là, vous pouvez me faire confiance parce que mon maître est quelqu'un de bien connu. Et voilà. Mais toute personne qui n'a pas de maître dans ce domaine, de maître reconnu dans ce domaine, mm-hmm. ne peut pas se proclamer devin. Il ne faut pas rester sur un seul maître. Mm-hmm. Il y en a qui ont 5, 6, 7, jusqu'à une dizaine de maîtres qui se trouvent éparpillés dans tout le Mali. Ils vont à l'école d'un tel pendant 1 an, 2 ans. Ensuite, il quitte et c'est le maître qui l'envoie chez quelqu'un d'autre qu'il mm-hmm. connaît, qui maîtrise mieux un domaine que lui ne maîtrise pas.
Comme un cycle. Hein.
Voilà, comme un cycle. Mm-hmm. Donc, on passe de maître à maître. C'est ce qui fait que cet apprentissage-là, presque ça prend toute la vie. Et cela n'empêche pas qu'on puisse faire de la divination chemin faisant, mm-hmm. mais en connaissant ses propres limites. Parce qu'on n'a pas appris ce domaine-là, mm-hmm. je ne peux pas en parler. Je peux faire la divination pour une seule personne, mais je ne peux pas faire la divination pour un village. Je ne peux pas faire la divination pour un pays.
Absolument.
Je ne peux pas faire la divination dans le domaine du football, parce que ce n'est pas mon domaine. Je n'ai rien appris là-bas.
C'est voilà. bien d'en parler.
Alors, docteur, avec la nouvelle génération, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette pratique, la relève est assurée ou bien c'est une tradition qui se perd?
Non, c'est une tradition qui s'enracine fortement et qui, je peux même dire, qui a pris un nouvel envol avec les nouvelles technologies, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que nous avons des initiés qui cherchent maintenant à mettre dans l'IA ou dans autre chose les éléments propres à ces recherches-là. Mm-hmm. C'est pourquoi si vous allez sur IA, vous avez des éléments, sur l'IA, vous avez des éléments liés à ça.
Ouais.
Bon, donc, c'est dire que c'est en train de prendre une autre dimension mm-hmm. parce que les apprenants sont maintenant des intellectuels.
En tout cas, c'est un atout de plus. Peut-être dernière question, que perdrait l'Afrique si ses savoirs venaient à disparaître totalement?
L'Afrique perdrait son âme. Parce que ce que beaucoup ne savent pas trop, c'est que la divination africaine est sur tout le continent africain. Nous avons par exemple un pays qui est très avancé dans ces choses-là, le Bénin, où il y a le vaudou, mm-hmm. et eux, ils ont le fa.
Okay.
Le fa, qui est l'équivalent exact de ce que nous appelons ici trois bouts. C'est les mêmes 16 cases. Et bon, j'ai été là-bas, j'ai mon professeur là-bas, Paco, qui est aussi un maître du fa, et qui est donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, si vous voyez du Mali au Bénin, mm-hmm. qu'il n'y a pas de différence, il n'y a que l'appellation. Nous appelons Tienla ou Diabo. Mm-hmm. Eux, ils l'appellent Fa. Donc, l'Afrique n'a pas intérêt à perdre ce savoir-là, puisque nous savons déjà que c'est à partir de ce savoir-là que le développement des nouvelles technologies a pris une grande ampleur. Mm-hmm. Revenir à la compréhension comme quoi l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de la science, des mathématiques, de la chimie, de la physique, de l'astrologie, de la spiritualité. L'Afrique est le berceau de toutes ces sciences-là. L'objet mathématique le plus ancien au monde, l'os d'Ishango, qui a été découvert au Congo, est le premier objet scientifique et c'est africain. Donc, nous devons prendre conscience que ces connaissances-là, nous devons plutôt nous intéresser à ça, ne pas en avoir peur, chercher à savoir comment ça se fait que à partir de 12 gorilles, une personne peut vous parler de votre avenir. Tous ceux qui ont été à l'école doivent s'intéresser. Chacun a un devin à côté de chez lui.
Intéressons-nous à ça. Passionnant tout voilà. ça. L'Afrique, berceau du savoir, Adama. Nous disons merci une fois de plus à Dr. Folé Moussa Sidibé. Je rappelle qu'il est gardien de la tradition. Et nous prenons à présent le chemin des stades. Cette émission, c'est aussi des informations sportives et comme d'habitude, nous retrouvons Khalifa Goïta, le coach sportif maison. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir à tous.
Alors, qu'as-tu au menu de l'actualité sportive cette semaine?
Au sommaire, la CAN féminine reportée au mois de juillet, le Binga FC corrige le stade malien de Bamako 4-0 en championnat national. Les Aigles d'âme du Mali attendus en Chine pour les qualifications de la Coupe du monde de basketball 2026. Et enfin, la date du Mali handball et désormais connu.
Après plusieurs semaines d'incertitude, la Confédération africaine de football a finalement fixé de nouvelles dates pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Khalifa.
Oui, Lala, initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026, la CAN féminine se jouera finalement du 25 juillet au 16 août prochain. La compétition aura lieu au Maroc. Dans un communiqué, la CAF explique que ce report vise à garantir le succès de cette importante compétition du football féminin africain.
Et Khalifa du 11 au 17 mars prochain, Wuhan en Chine accueillera le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde Dames de Basketball FIBA 2026.
Les Aigles Dames du Mali, vice-championnes d'Afrique, tenteront d'y décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde prévue en Allemagne du 4 au 13 septembre 2026. Dans la poule A, les Maliennes affronteront notamment la Belgique, la Chine, le Brésil, la République tchèque et le Soudan du Sud. Les trois meilleures équipes du tournoi se qualifieront pour la phase finale.
En football local, large victoire du Binga FC face au Stade Malien de Bamako.
En effet, Binga FC s'est imposé 4 buts à 0 mercredi au stade Wenzin-Koulibaly dans un match en retard de la 12e journée. Sekou Oumar Maïga a inscrit un triplé, tandis qu'Abdoulaye Koné a marqué le 4e but. Dans l'autre rencontre en retard, l'AS Real et le Djoliba ACC sont quittés sur un score d'un but partout. Au classement provisoire, l'AS Real reste leader avec 28 points devant le Djoliba.
Et puis un mot de handball pour terminer.
Oui, la cérémonie du Mali Handball Awards est prévue le 28 mars 2026 au CICB. L'événement vise à célébrer et récompenser les meilleurs acteurs du handball malien, joueurs, joueuses, entraîneurs, arbitres et dirigeants. Une initiative de la Fédération malienne de handball. C'est tout pour aujourd'hui, Lala Touré.
Merci beaucoup, Khalifa Goïta.
Et la transition est toute trouvée pour partir en musique.
Absolument, Adamo. Et nous allons partir au nord du Mali et nous allons écouter Amazigh dans Achabiba.
De retour dans ces studios et nous partons à présent avec la revue de la presse et cette fois-ci en langue nationale bamanankan.
La revue de la presse.
Moussa Malé Sissoko, Ambi Fou, Kosobe, Koliba Chetila.
Bach Fou était là, Alhamdoulaye.
D'accord, il y a un peu de temps pour la fin de la journée.
Hate.
En parlant de la fin de la journée.
Lala Djara Touré, je suis venu à la fin de la journée. Mborani, Sirako, ni Tamako, ministre So, au Kelenko, à Bamako, à Nikulikoro, Sira, Bara, au Nundo, au Mi, Hakebeta, kilomètre, Konantona. Ko, au La Barali, Wari, ko, milliard, Kelenko, au Tununa. RN 27, Noye, Bamako, à Nikulikoro, ni Nyoranche, Siraye. A yoro munkanga boyani obeta kilo kononto nyonala obara u nundona kokura kasoro ukun damnena kabini jwe kalola samba fla animwani nani temele ni musaka nunu bela jele kanga ben se faware milliard Mugani Kononto ani Korema Kasabi Bora Bank West African de Développement Nuka Mako BAD Mali 24 akoko barawu nundona kokura kasoro ko wati jando kera barawu kunjora ngako benata bololo kan ani kuna fondi sebendo konnana ulu chama ya iraka foko sika kelendo ala se forward milliard kelenko e o mi tununa chakeda minga baranye shinebe siraba ko ni bolma fenko ma ko matanduru ko sika kelendo lula ni nafole na ragilla ala ministre so Alpha Mamina Madame Dambele Madina Sissoko ale konya iraka fo koninte chen anyo samangabo lesor konnana akatroma do senfe ni chantier na doakun konnana ayefeselike kanyeshi ni kumaka munube bololoka ni watina lendepana ale iraka fo Madame Dambele Madina ba iraka fo ko gelea foite warkola ambe watimina ko sisan ko jate munukera ani warbota o lu bela jelendira entreprise ani jamana ni nyonche obefeselera yoluba FM ale fina iraka foko ministre ko kadamine chantier ndamine na wati mina samba fla ani mwani nani wati la kanabla bila ko segesegel fo imake bureau de vérificateur fait kanyeshi ni chantier barako nyauma aba iraka fo afurako na folo do munu la bara la nu noma ye no irregularité financière ye ko o bara u be talike autorité routière bara munu ke samba fla ani tan shegi kana bla samba fla ni mugana ni mugani kelena ko sekesekeli be talike o wati de kan ay min samanka bo joliba fm konnana info matin ale ko ni ira ka fo ko ni jatige ko madame dambele madina sisoko ina fo ni chantier imbara rn 27 obeka jatige bla ala sabla kuna fondi sebe nga fola ko bololo ka ko kuma uchalendo jamana de unka jatemine kanyeshi jamana nyema ka barama ani filimu numana yo obara ula ko fo bololo ka ko fanga ka boni watina ko ministre madina sisoko akumbe feka aira ka fo ko fe munu bolendo bololo ka akorotora ko lu kuma nunu galontiga informate mba ere nyinga kaira ka fo ko yali jamana nyema wajibi alene donc uyere fese fese walma ko ngunungunu kan fem fem manake bololo ka oluku kuyere la jea ko ministre ka ni wale kabe mam bla mirijan kononana orebe dansigi anga bi revue de la presse la au kambe
musa male sisoko eni cheka ni kurafuni ya jale nuna ni revue de presse minan salni yera ka fola ay wambe kambe da nyugo ndoko ko ndi ala manga jonya jona et nous arrivons bientôt au terme de ce numéro du club de Tamani mais nous donnons la parole à notre invité pour ses propos conclusifs. Docteur.
Merci beaucoup, merci et merci pour cette initiative pour éclairer les uns et les autres sur une thématique qu'on aborde rarement, alors que nous savons que dans notre pays, chacun, un peu ou beaucoup, chacun a recours à la divination d'une façon ou d'une autre. Donc c'est bien que ces genres de thématiques soit développé par votre organe, Studio Tamani, qui est bien écouté, et j'espère que les gens feront bon usage de ce dont on vient de parler.
Merci beaucoup, docteur Fode Moussa Sidibé. C'est sur ces mots que se referme le club de Tamani de ce vendredi. Nous avons vu aujourd'hui que derrière les pratiques divinatoires se cache une volonté profonde de comprendre notre place dans le monde et de maintenir l'harmonie avec nos racines. Qu'on y croit ou non, ces traditions font partie de notre identité et de l'histoire de notre continent. Nous l'avons compris à travers les éclairages de notre invité. Un grand merci à vous. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Gagné Kanté était à la mise en onde de présentation Adama Amadou Haïdara Lalladiara. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles auditeurs. À très vite pour un autre numéro du Club de Tamani.